Cochi.
Les coqs chantent et les jours paraissent, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, nous allons voir le programme de reforestation intégrée, un programme de reboisement mené par l'ONG internationale SOS Sahel et ses partenaires dans la zone des Niayes sur la façade maritime du Sénégal. Dans cette zone des Niayes, la désertification menace chaque année les populations rurales. L'objectif de ce programme est double. Planter 1 million d'arbres afin de restaurer l'écosystème de la zone et soutenir l'activité des petits producteurs qui vivent du travail de cette terre. Il faut d'abord dire un mot sur cette déforestation ou déboisement qui conduit au phénomène de désertification. Ce déboisement a plusieurs causes. La progression rapide de la population des villages, la mauvaise politique énergétique qui oblige les populations à surexploiter les ressources les plus accessibles, le bois et le charbon. Il faut y ajouter les effets des dérèglements du climat. En gros, c'est l'action humaine qui en est la cause principale et cela n'est pas sans effet. Par le monde, les arbres sont des symboles de vie. Ils offrent le confort de leur ombre, l'abondance de leurs fruits, redonnent vie aux terres stériles, fournissent un combustible essentiel, enrichissent et stabilisent les sols. Bref, ils présentent la particularité essentielle d'être à la base de toute chaîne alimentaire, d'où la production primaire. Ils sont indispensables. Et c'est justement ces éléments indispensables qui sont détruits par la main de l'homme. Face à cette situation alarmante, une vaste campagne de plantation d'arbres se reprend presque un peu partout. Ce sont les projets de reboisement. On quitte Dakar par la A1 en direction de Saint-Louis. Là-bas, on dit autoroute à péage. Un peu avant Sibikodane, on prend la piste par la gauche. Une lente progression qui nous laisse le temps de vous présenter la zone des Niayes que nous allons arpenter aujourd'hui. La zone des Niayes est une bande étroite d'une longueur de 100 à 280 km de Dakar à Saint-Louis et d'une largeur variant entre 25 et 30 km entre la côte atlantique et la A1. Dans la zone des Niayes, l'eau est disponible et accessible aux paysans. Les conditions naturelles favorables à la production horticole y ont attiré les populations. 80% de la production horticole sénégalaise sont concentrées dans la zone des Niayes, qui assure l'approvisionnement de l'agglomération dakaroise en produits frais. L'aviculture industrielle est très présente dans cette zone et à un bien moindre degré l'élevage de bovins et surtout de petits ruminants. Les femmes jouent un rôle significatif dans l'économie de cette région.
Allez, on descend. Donc on y est. Mauvaise troupe.
Avancez, s'il vous plaît.
Notre première escale, c'est le lac Rose. Pour le grand public, le lac Rose, de son vrai nom lac Retba, c'est avant tout un site touristique. Pour les téléspectateurs du monde entier, ce lac du village de Niaga de la municipalité de Sangalkam est une curiosité de la nature rendue célèbre par les traditionnelles arrivées du rallye Paris-Dakar. Pour les habitants de la région, c'est un secteur à fort potentiel économique, comme on va le voir. Salifou Ouedraogo, directeur des opérations de l'ONG internationale SOS Sahel, situe pour nous les enjeux.
Ici, c'est pour tremper d'abord le décor, parce que l'État sénégalais, dans les années 60, a mis en place une bande de filao tout le long de la côte, de 180 km sur 200 à 500 mètres de large. Cette bande de filao a pour objectif de pouvoir empêcher l'érosion côtière d'avancer, de pouvoir protéger les cuvettes maraîchères, de pouvoir protéger les habitats des populations. Et cette bande de filao, aujourd'hui, a près de 50 ans. Et la bande de filao, il y a un vieillissement, les arbres, et il faut arriver à les renouveler. Une fois qu'ils ne sont pas renouvelés, qu'ils disparaissent, c'est l'érosion côtière qui va avancer, donc c'est des cuvettes qui seront ensablées. Il y a les bâtiments qui vont disparaître, donc tout vie risque de disparaître au niveau de cette bande, la zone des Niayes. Donc ici, le défi, c'est d'arriver à renouveler cette bande de Filao afin de permettre que les dunes puissent être stabilisées dans la durabilité.
Alors, le lac est là, où est la mer?
La mer est juste derrière, ce qui veut dire que si on enlève toute cette végétation, cette bande de Filao, la mer va progresser et il n'y aura plus d'eau douce. Parce qu'une fois que la mer progresse, il y aura l'eau salée qui va s'infiltrer, il y aura des problèmes d'eau douce, il n'y aura plus de maraîchage et les habitats aussi seront envahis.
Alors qu'est-ce que SOS Sahel a fait?
Bon, face à cette problématique, SOS Sahel avec les partenaires locaux, que ce sont les unions, les groupements, l'État, a mis en place le programme de reforestation intégrée. C'est un programme à long terme. Et ce programme, à son démarrage, a été associé l'IREM-LCD, le CILS-IREM-LCD, plus la Fondation Ensemble, qui se sont associés à SOS Sahel pour démarrer le programme sur le terrain.
On a fait combien de kilomètres d'ailleurs?
Oui, 35. Moi, j'ai l'impression qu'on a fait 100 kilomètres. Mais en réalité, on roule doucement, on double des charrettes à cheval.
Adama Fall est coordonnateur des projets SOS Sahel au Sénégal. C'est-à-dire que c'est ce technicien qui a travaillé en contact constant avec les communautés villageoises pour la bonne marche de ce programme de reforestation intégrée. Pour résumer la situation, on va dire que les gens exploitent le sel contenu dans le lac, on coupe les arbres du cordon lagunaire qui protège la côte, il y a dégradation des terres, il y a l'ensablement des périmètres maraîchers dus à la progression des dunes.
Il y a aussi, comment dirais-je encore, une agression de la zone de par un problème d'urbanisation.
Ah oui, la ville de Dakar s'est étendue jusque-là.
Tout à fait. Commence à s'étendre vers la banlieue. Et maintenant, le lac est menacé à cause de l'urbanisme. Que aussi, il ne faut pas oublier que cette zone est le grenier du Sénégal en production horticulture, c'est-à-dire en légumes. 70% de la production nationale vient de cette zone-là, qui est la zone des Niaï. Et l'activité se pratique dans des cuvettes, ce qu'on appelle les cuvettes. Le lac-là, c'est une cuvette. On le voit, c'est une cuvette. C'est pourquoi on a pu quand même avoir de l'eau sur 5 km et sur 80 mètres de large.
Monsieur Fall, je veux voir, par exemple, quand on a pris le car, sur le goudron, ça ne se voyait pas, mais quand il ralentit, il descend et puis il remonte, en fait, c'est une cuvette.
Tout à fait. On assimile cette zone à une tôle de zinc.
C'est-à-dire ondulé, quoi?
Oui, c'est ondulé, parce qu'il y a des formations dunières, il y a des cuvettes, il y a des formations dunières, il y a des cuvettes. Ce qui fait que cette zone-là est très favorable à culture maraîchère. Très favorable.
Alors, quand vous vous êtes arrivé en tant que SOS Sahel, qu'est-ce que vous avez dit aux populations?
On a déjà commencé par les sensibiliser, en leur disant que la ressource, l'eau, qui est une ressource très, très, très... il y a beaucoup d'eau dans cette zone-là, et que les populations croyaient que l'eau ne finisse jamais. Ils utilisaient des techniques qui n'ont pas du tout appropriées. Deuxièmement, il va falloir quand même que les gens font des actions de reboisement pour pouvoir restaurer la zone.
Donc, quand vous êtes arrivé, vous avez dit, il faut faire attention, ce n'est pas éternel.
Tout à fait.
Et est-ce qu'ils ont compris?
Certains ont compris. Parce qu'il y a certaines cuvettes aujourd'hui qui sont gagnées par le biseau salé.
Biseau salé, c'est quoi?
C'est-à-dire l'eau de la mer envahit la nappe phréatique. Ils ne peuvent plus mener leurs activités correctement parce que l'eau est salée.
Et eux, ils ont compris immédiatement?
Ils ont compris. Et nous aussi, derrière, on les accompagnait avec des techniques économes d'eau telles que le goutte à goutte.
Je vais essayer de comprendre. C'est-à-dire que, voilà, quand vous avez fait votre sensibilisation, il y a d'abord ceux qui ont eu leur cuvette salée et qui ne savaient pas pourquoi, vous avez expliqué.
Tout à fait.
Et eux, ils ont servi d'ambassadeurs pour ceux qui étaient menacés.
Tout à fait, c'est ça. Parce que là, il fallait faire une très grande sensibilisation autour des populations locales, autour des associations et autour également des leaders locaux.
C'est-à-dire que ce que vous appelez les personnes ressources, il faut aller voir le chef de quartier, l'imam, le président d'association, les présidents d'associations de femmes.
Tout à fait, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'association des unions maraîchères, qui se trouve être sur toute la bande de Filao jusqu'à Saint-Louis, qui dispose de 17 groupements. Et donc, c'est des 17 unions avec plus de 1000 groupements. Donc, c'était notre porte d'entrée pour pouvoir faire une très grande sensibilisation parce que c'est les acteurs locaux qui mènent les activités économiques. Pour ce qui concerne qu'en fait l'érosion éolienne, c'est-à-dire la mobilité des dunes, parce qu'avant la bande de Filao, l'habitat était très difficile au niveau de cette zone-là. Les gens déplaçaient leurs cases tous les ans. parce qu'il y avait du sable, ils ne pouvaient, des fois ils ne pouvaient même pas ouvrir leurs portes. Du coup, avec la bande, ils ont compris que cette bande-là, c'est la colonne vertébrale de la zone. Si la bande disparaît, la zone va disparaître. Donc du coup, il y a un problème écologique qui est réel, que tout le monde actuellement est conscient de ce problème-là. Il s'y ajoute également les changements climatiques.
Monsieur Fall, vous me faites peur, là. Vous voulez me dire que c'est de Dakar jusqu'à Saint-Louis qui a ce problème-là?
Oui, c'est de Dakar jusqu'à Saint-Louis.
Ça, on a fait l'état des lieux, ça c'est le constat. Vous êtes arrivé, vous avez sensibilisé les populations. Et après, l'action a consisté en quoi?
L'action a consisté à quand même accompagner les populations par, en fait, en prenant des initiatives comme le PRI.
Le PRI, c'est quoi?
C'est le programme de reforestation intégrée. Tout à l'heure, j'ai parlé de problèmes d'eau. La nappe phréatique est très proche dans cette zone-là. Et les populations ne sont pas conscientes du tout que c'est une ressource qui finisse.
Vous voulez dire que là où on est arrêté, là sous nos pieds, il y a eu l'eau douce?
Tout à fait. La mer, c'est le niveau zéro. Donc, le continent est élevé. L'eau de ruissellement a tendance à venir vers la mer. Ce qui fait que la nappe phréatique est bien chargée dans cette zone-là. Il y a 50 ans de cela, pratiquement, la nappe effleurée a fait le sol.
Ah oui, donc c'est parce que nous, on a puisé que c'est descendu?
Tout à fait. Et l'effet de la sécheresse également. La désertification et la sécheresse.
Mais ça, c'est des milliers et des milliers d'arbres qu'il faut planter.
Tout à fait. On est sur 9000 hectares. 9000 hectares. Et que peut-être là, on va revenir dans l'autre site. Mais tout ça, on va y revenir prochainement avec le renouvellement de la bande. Tout ça, on va vous expliquer ça de manière claire.
Et donc, quand on va aller sur l'autre site, on va voir le travail.
Oui, on va voir le travail.
D'accord, on va y aller. Merci.
Merci beaucoup.
Dans le cas,
appelez-vous madame.
Merci.
Sauf que moi je suis là, tu peux partir.
Notre deuxième étape, c'est la commune de Mboro, où nous allons visiter une parcelle renouvelée dans la bande du Filao à Kondio.
On est à Mboro.
Nous sommes toujours dans la zone des Niaï, plus précisément dans la commune de Daroukodos, dans la région du Thiès. L'État sénégalais a mis à disposition de chaque groupement un bloc de 50 hectares dans lequel il doit couper et reboiser 2 hectares chaque année. Et c'est le cas pour le groupement du Kondio qui compte 87 membres. SOS Sahel et ses partenaires ont accompagné 4 unions locales dans le renouvellement de 478 hectares. Les explications de Adama Fall. Je rappelle qu'il est coordonnateur des projets SOS Sahel au Sénégal.
On vous suit?
Oui. C'est quel village ici? C'est quel village?
On est dans le village de Kondio. Nous voici dans la bande de Filao. Ici, on a travaillé avec l'Union de Mboro, plus précisément le groupement de Kondio. C'était une parcelle qui a été coupée en 2008 et qu'on a pu régénérer avec le groupement de Kondio.
Ça a été coupé par qui?
Par le groupement, l'Union.
Qui a coupé?
Oui, et qui a renouvelé comme ça. Et ce renouvellement, l'État octroie chaque groupement un bloc de 50 hectares, dans lequel le groupement a droit à 2 hectares annuels à couper par an. Et les recettes, les retombées de ces 2 hectares avec la commercialisation du bois permet de soutenir le groupement à pouvoir faire le renouvellement. Mais comme vous le savez, tout début est difficile. Il fallait quand même un coup de pouce pour qu'il puisse quand même faire correctement le travail. C'est ainsi que SOS Sahel, la Fondation Ensemble, le CILS ont pu accompagner l'Union dans la production de plants, dans la protection, dans la formation et le débardage.
C'est quoi le débardage?
C'est le fait de sortir le bois et le nettoyage de la parcelle jusqu'au dépôt. Et c'est en fait le poste le plus coûteux. Du coup, il fallait un accompagnement dans ce sens-là. La première initiative nous a permis de les octroyer des charrettes pour pouvoir faire de manière manuelle le débardage. Ensuite, on les a octroyé 2 inimoques.
C'est
des camions tout terrain. Mm-hmm. C'est les seuls camions qui peuvent accéder au niveau de la bande.
Parce qu'il y a du sable.
Parce qu'il y a du sable. C'est une zone très difficile.
Même pour marcher, on a vu que c'est pas facile.
C'est une zone très difficile.
Mon père, laisse le téléphone et allons-y. Tu n'as pas besoin de dire.
C'est une recommandation totalement superflue.
La bande de Filao, c'est la colonne vertébrale de la zone. Pour vous dire l'importance de la bande de Filao. On l'a dit tantôt, au niveau du lac Rose, c'est la vie même, je dis bien la vie même de cette zone.
Vous pouvez nous expliquer ça?
Parce que avant la bande, vers les années 60, les populations ne pouvaient pas s'installer. Ils se déplaçaient comme des nomades parce qu'il y avait des rafales de vent, il y avait la mobilité, l'érosion éolienne et l'ensablement aussi des cuvettes. Si aujourd'hui la zone est stabilisée, plus ou moins, c'est dû à cette bande-là.
Je vais essayer de comprendre, c'est-à-dire que je construis ma maison, la dune avance, je suis obligé d'aller ailleurs.
C'était des cases, personne n'osait construire, personne n'osait faire un investissement. C'était des cases, voilà.
Attendez, c'est-à-dire que vous avez dit que ça c'est ancien, ça c'est nouveau.
Ça c'est les anciens.
Qu'on va bientôt couper.
Oui, on va les couper, mais il y a un système de coupe. Vous avez vu, si nous progressons un peu, vous verrez qu'entre la parcelle à couper, on a laissé une bande de 25 non coupées. Sur 800, c'est l'autre qu'on a coupé. Parce qu'on ne veut pas le ravivement des dunes. Parce que si on crée des poches...
Ça va bouger.
Ça va bouger. C'est toute une technique derrière. Et que ça doit être respecté. Du coup aussi, pour mettre la pression au groupement, on a fixé un taux de 85% de réussite. Si le groupement ne parvient pas à avoir ce taux-là, il est obligé de faire du regarnissage jusqu'à atteindre ce taux pour pouvoir prétendre à une autre parcelle.
Attendez, si par exemple il plante, il faut qu'il y ait 85% du pouce.
De pouce, de réussite. Et maintenant, si le groupement ne parvient pas pour des raisons de divagation, pour des raisons de pluviométrie, il est tenu de revenir avant de commencer une autre parcelle, renouveler la parcelle, faire du regarnissage pour pouvoir quand même avoir une autre parcelle.
Vous les punissez économiquement, quoi.
Mais c'est tout à fait normal. Parce que c'est, je vous ai dit tout à l'heure que la bande, c'est la vie même, c'est la colonne vertébrale de la zone.
D'accord. Ah non, mesdames, recommencez. Le docteur Jimmy Adoum, spécialiste en agronomie et physiologie végétale et en agrovulgarisation, ancien ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation du Tchad, est secrétaire exécutif du CILS. Ce comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel est une organisation internationale intervenant dans 13 pays.
Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, créé en 1973, suite aux grandes sécheresses qui ont sévi la région. Donc les chefs d'État, les 6 chefs d'État de l'époque ont convenu de se retrouver à Ouagadougou. Donc c'est la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Ils ont donc créé le CILS. Le CILS, ils l'ont créé pour lutter contre la désertification, changement climatique, lutte pour reverdir, si vous voulez, plus ou moins le Sahel. La recherche de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le problème lié à l'eau et la formation et le renforcement des capacités de nos États. L'idée, c'est de savoir plus ou moins s'organiser, de devenir résilient et de vivre dans ce climat-là en évitant les catastrophes de 1973. Donc du coup, ce que nous avons développé, c'est d'abord des formations, des renforcements des capacités de recherche, de la mise en œuvre de projets structurants pour donc permettre à ces populations-là, et comme vous êtes en train de le voir ici, utiliser les technologies d'adaptation, d'adaptabilité et de défense. Donc si on met ce terrain-là en défense, vous avez entendu les parents dire qu'effectivement, n'eût été cette colonne vertébrale, le village courait beaucoup de risques.
Alors maintenant, on connaît votre organisation, son mode d'intervention. Nous sommes dans un village au Sénégal, dans la commune de Mboro. Et ici, le problème, c'est qu'il y a la mer juste derrière. Il y a une dune de sable qui avance et qui menace et les habitations et les productions maraîchères.
Ça, c'est la magnificence de la technologie, c'est-à-dire l'application de la science et de la technologie, tout simplement. Vous voyez, ici, nous avons des grands arbres. Vous regardez au sol, il y a un couvert. C'est-à-dire les déchets qui tombent, c'est-à-dire les petites feuilles là qui tombent des arbres, viennent couvrir de sorte que même quand il vente, il ne peut pas soulever le sable pour le faire avancer.
Ah, ce tapis-là ?
Oui, ce tapis-là, donc, permet de protéger le sol.
Et c'est fertile.
Bah oui, bien sûr, ça fertilise, ça protège le sol. Une matière organique assez profonde, ça peut même aller jusqu'à 1 mètre. Et nous, pour produire, il nous faut 30 à 40 cm. Mais donc avec cette couche qui est très riche en matière organique, le sol est complètement couvert. Il peut venter, effectivement, mais le sable ne va pas se déplacer. D'où l'intérêt, vous voyez ici, que cette bande-là nous permet de nous protéger. Et si on la gère de manière très rationnelle, chose que les habitants, les pratiquants de cette technique ont bien maîtrisée, avec l'engagement de l'État, avec l'engagement des ONG comme SOS Sahel, la synergie avec le CIS, nous avons réussi. Maintenant, eux-mêmes, ils l'ont témoigné, à stabiliser, à nous protéger contre le vent et l'avancée des déserts.
Mais moi, j'ai gratté un peu, j'ai vu que c'est humide en bas, là, il y a une infiltration de l'eau.
Justement, quand le sol est protégé, c'est-à-dire on diminue un peu l'intensité du soleil, vous savez, bon, peut-être il y a une pénétration du soleil de 40 à 60% par endroit. Et donc, et là où nous sommes, il est frais. Il fait frais, c'est-à-dire c'est tout ce...
On a déjà l'ombre et puis il y a ce tapis-là en plus.
Et ce tapis, donc maintenant, si vous vous identifiez même sous cette ombre-là, c'est-à-dire ça, c'est cette voûte foliacée, par endroit, elle est un peu clairsemée. Donc, on peut même semer d'autres essences pour produire, parce que justement, la matière organique y est. On n'a pas besoin de produits synthétiques. L'humidité est là et donc tout ce qui reste, c'est de produire.
Ah, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a un premier étage, ces arbres du filao là, et vous voulez faire un deuxième étage, oui, herbacé en dessous.
Tout à fait, on peut ici trouver des espèces qui peuvent bel et bien s'adapter à ce type de configuration, et donc on produit ces espèces-là, par exemple dans cet espace, vous voyez, la voûte foliacée, le premier étage est assez haut, il laisse pénétrer le soleil, il y a de l'humidité, il y a du vent, et donc on produit.
Ah oui, c'est pour ça qu'on a choisi le filao, c'est-à-dire que les racines vont en profondeur et le deuxième étage, le système racinaire, va stabiliser davantage.
Exactement, donc notre sol, vous voyez, ici il n'y a pas de fissure, il n'y a absolument rien avec ce couvert-là. Vraiment le sol, ça c'est une bénédiction, c'est-à-dire on connaît ces essences, on les applique et on les gère de manière très rationnelle, très responsable. Et tout d'un coup, nous sommes en train de lutter de manière très efficace contre l'avancée du désert. Nous devenons résilients, nous produisons pour manger. Il y a de l'argent dans ça. On a entendu dire, nous allons tout de suite entrer dans la comptabilisation des coûts et bénéfices. Mais on coupe, on envoie et on vend. Donc c'est ce qui fait qu'avec le revenu issu de cette plantation, nous allons donc diversifier, créer de petites unités de transformation dans les autres systèmes de production. C'est comme ça que nous allons, si vous voulez, rendre très élégantes nos espaces, très élégants nos espaces là où il fait bon vivre, faire de sorte que nos jeunes puissent aussi trouver de l'emploi. Si on coupe, si on transforme, si, maintenant malheureusement on ne transforme pas, mais je crois qu'on va passer à l'échelle suivante, c'est de transformer pour qu'on crée de la valeur ajoutée sur place. Et c'est là qui va nous permettre de créer des richesses et de l'emploi.
Alors une dernière question, moi je ne vois pas l'articulation entre votre action SILS et l'action SOS, c'est peut-être une question de profane.
Non, elle est bonne. Elle est bonne, mais nous, on travaille en synergie, c'est-à-dire on s'assoit, on a un partenariat, et donc on mutualise, ils viennent, bon, il y a tel endroit, eux, ils n'ont pas peut-être la capacité, nous venons avec ce que nous faisons, ou on cherche des sous, de l'argent ensemble, et donc ce que vous ne voyez pas à l'œil nu, on le fait tout doucement, mais de manière très efficace. Pourquoi moi, le CIS est honoré d'être représenté par le secrétaire exécutif, pour venir plus ou moins constater de visu ce que ce partenariat est en train de faire et entendre le témoignage des bénéficiaires.
Je vous remercie.
Je vous en prie, c'est moi de vous remercier.
À présent, le témoignage des acteurs locaux, c'est-à-dire les groupements membres de l'Union forestière de Mboro, qui est chargé d'organiser la commercialisation du bois, la production des plants dans les pépinières et le reboisement des parcelles coupées. Alors, je vais nous présenter, madame.
Bonjour.
Oui.
Je m'appelle Madame Ndey Fatou Ndaw. Je suis la secrétaire générale de l'Union forestière de Mboro.
Vous pouvez nous présenter Mboro? Il y a combien de villages?
Mboro, se trouve dans 3 km carrés. C'est une commune qui se trouve dans 3 km carrés. Mbor se trouve dans la commune de Daru Khodos. On peut dire la commune de Daru Khodos. Il est entouré de la commune de Daru Khodos. Mm-hmm. Comme la commune de Mbor est entourée de la commune de Daru Khodos, mm-hmm. on peut dire que tout l'espace qui reste, c'est la commune de Daru Khodos. Mm-hmm. Mbor compte 30 000 âmes.
Alors, j'ai regardé ici, on fait du maraîchage, mm-hmm. on plante des manguiers. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre?
Il y a les arbres fruitiers, mm-hmm. comme vous venez de le dire. Il y a le maraîchage, mm-hmm. il y a l'habitation aussi.
Mais moi, j'ai toujours vu les femmes travailler, puis les hommes sont assis et causent.
Non, les hommes aussi travaillent comme les femmes.
Il y a combien de personnes de groupement dans l'Union?
Il y a 1237 personnes dans l'Union.
Et que fait l'Union?
C'est l'Union qui supervise. C'est l'Union qui défend les intérêts mmh. des personnes qui sont adhérées à l'Union. Mmh. L'Union aussi est un cadre de concertation autour de ces groupements.
Alors, on m'a dit qu'il y a la mer de l'autre côté. Mmh. Ici, on a vu des dunes. Mmh. Alors, quel est le problème ici?
Le problème ici, c'est que autant, s'il n'y avait pas ces filaos-là, on n'habiterait pas ici.
Pourquoi?
Pourquoi il y avait des dunes de sable? Et puis la mer aussi faisait rafale. Venez, les vents de sable aussi faisaient rafale mmh. au sein des habitations et au sein des champs. Mmh. Donc on ne pourrait pas y cultiver ni habiter, rien du tout.
Si j'ai bien compris, il y a 25 ans, l'État a fait cette bande de filao, mmh. mais aujourd'hui la bande de filao est menacée.
Oui, la bande est menacée, mais actuellement, avec ça, avec les Canadiens, au début, on avait fait un plan d'aménagement. Mm-hmm. Et ce Sahel est venu nous accompagner sur ça. Mm-hmm. Ce plan d'aménagement, c'est pourquoi chaque année, hein, mm-hmm. on octroie des parcelles aux groupements qui sont membres de l'Union pour qu'ils puissent exploiter ça.
Exploiter, ça veut dire qu'on coupe les anciens qui ont
oui,
vieilli.
Oui, on coupe les anciens et on les régénère. Mm-hmm. En parlant de régénération, on parle de reboisement. Mm-hmm. Oui.
Vous avez une pépinière ici?
Oui, on a des pépinières. Chaque année, il faut qu'on fasse des pépinières mm-hmm. communes pour tout l'Union, tous les groupements de ces pépinières-là. Mm-hmm. Le moment opportun, on les donne ces pépinières directement.
Là, vous donnez les jeunes plants et puis ils vont planter?
Oui.
Donc ici, c'est vous qui avez planté?
Oui.
Mais ça, c'est les anciens, là.
Comme Adam vient de vous le dire, mm-hmm. de 2008, on a commencé avec eux. Et il y a tout ça, mm-hmm. il y a ces plantes et tout ça.
Qu'est-ce que SOS Sahel a fait pour votre union?
SOS Sahel, il nous a appuyé en pépinière. En faisant des pépinières, pour avoir des pépinières, il faut avoir des sachets. Mm-hmm. Et tout ça, SOS Sahel nous appuie à ça. SOS Sahel nous a appuyé en Ninumok. SOS Sahel nous a appuyé mm-hmm. avec des tronçonneuses, mm-hmm. des kits et tout ça. Et puis, il y a la formation aussi. Mmh. Voilà. Il nous a appuyé avec la formation. Et aussi, pour le maraîchage aussi, il nous a appuyé.
Donc, aujourd'hui, tout va bien.
Ah, on essaie, alhamdoulilah, mais s'il revient aussi, ce serait trop bien.
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ce que vous avez appris, vous l'appliquez. Mmh. Si on vous apprend autre chose aussi, vous êtes prête à accepter.
Ok. On est prêt à accepter. Et puis, on espère mieux continuer avec lui.
Je vous remercie. Ah, vous avez commencé la musique, vous allez continuer.
Nous étions au lac Rouge dans le village de Niaga, à Kondjo, dans la commune de Mboro au Sénégal, en compagnie des animateurs de SOS Sahel, des dirigeants du SILS et les groupements villageois qui mettent en œuvre le programme de reforestation intégrée dans la zone maraîchère de Niaï. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Moshinsky, au micro Sayouba Traoré. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr pour nous écrire le coqchante@rfi.fr et vous pouvez toujours consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Avant de se quitter, ce rappel, vous voulez écouter Radio France Internationale sur votre téléphone mobile, c'est désormais facile. Il vous suffit de télécharger l'application RFI Pure Radio, vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.
Merci, mesdames.